proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Henri Araximov pour l'arrière-saison des Lucioles, parue aux éditions L'Antilope. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Alors, quelques mots de présentation pour commencer. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres dans de nombreux genres, romans, récits personnels, essais littéraires, ce qui vous a permis d'être à la fois un acteur et un observateur du monde littéraire parisien. Vous êtes le petit-fils d'émigrants juifs polonais arrivés dans les années 20 à Paris. Vous maîtrisez l'yiddish, ce qui vous a permis de traduire des classiques de la littérature yiddish en collaboration avec Abi Wieworka. Vous avez été professeur de lettres pendant une trentaine d'années, ce qui vous a permis de fréquenter l'étude des écrivains majeurs et de transmettre leur singularité. Et vous êtes le fils d'Antienne Raximov, qui a appartenu au FTP Moy. Alors on rappelle, les FTP Moy, ce sont les francs-tireurs et partisans, la main-d'œuvre immigrée, qui ont été les unités de la résistance communiste, ce qui vous a permis de baigner dans le militantisme du parti communiste français. Donc vos engagements se retrouvent dans les livres qui font votre actualité. L'arrière-saison des Lucioles, qui vient de paraître aux éditions L'Antilope, et vous nous conviez à une balade littéraire entre souvenirs et émotions. À Dekidam, croisé au fil de votre destin, se mêlent de véritables gloires littéraires dont les enseignements sont riches de leçons à tirer. Monsieur Rosenblum, c'est le narrateur, convoque ses souvenirs les plus personnels qui pourraient apparaître comme les plus anodins pour le lecteur, mais voilà que la somme de ses souvenirs résonne avec les nôtres. Non seulement ils nous instruisent de l'intérieur sur le microcosme des écrivains parisiens, mais nous invitent également à réfléchir sur qui nous sommes. Le narrateur ne cache pas ses origines juives et s'approprie une pensée d'Emmanuel Lévinas que vous citez. S'interroger sur l'identité juive, c'est déjà l'avoir perdue, mais c'est encore s'y tenir, sans quoi on éviterait l'interrogatoire. Entre ce « déjà » et cet « encore » se dessine la limite, tendue comme une corde raide sur laquelle s'aventure et se risque le judaïsme des juifs occidentaux. Fin de citation. On suit donc M. Rosenblum dans cet affleurement du passé dans son présent, avant que la marque du temps ne l'atteigne. Alors, on se pose une question, est-ce que tous les souvenirs méritent d'entrer en littérature ? Et c'est dans ce souci de suivre des traces que ce livre suscite tout notre intérêt, effleurer avec dérision le passé pour le faire affleurer dans le présent. La première question qui s'impose, et qui est un peu une tradition dans cette émission, comment vous est venue l'envie d'écrire ce roman ?
D'abord, il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un essai personnel, très libre. Mon modèle étant, mais un modèle lointain quand même, étant Montaigne, qui écrivait, comme il le disait, à saut et à gambade. C'est leur passant du coq à l'âne, ou enfin, dans un esprit de très, très libre. Comment je suis venu écrire ce livre ? Eh bien, ce livre, Gilles, qui est ici présent, Gilles Rosier, le sait parfaitement. Ce livre a été d'abord un journal que j'ai tenu pendant le confinement du Covid, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, et qui faisait à ce moment-là 600 pages. Donc, je l'ai fait lire à Gilles, qui a bien voulu y jeter un œil, et plus qu'un œil, et avec qui je me suis entretenu quelques minutes comme ça au téléphone, et à plusieurs reprises, je crois bien, et finalement, j'ai compris, ça a été une illumination, un déclic décisif, comment je pouvais, ce que je pouvais faire de ces 600 pages, évidemment qu'il ne fallait pas garder tel quel, c'était impossible. Donc voilà, j'ai sculpté, en quelque sorte, une matière brute pour en faire... de façon, comment dire, très très libre, encore une fois, un objet qui me plaise, et qui constitue un livre, parce qu'un livre n'est pas forcément fait seulement de belles pages, mais il faut que ce soit cohérent, et dans un journal, si vous élaguez, il faut qu'il en reste quelque chose de vivant, de substantiel, et qu'il ne soit pas comme un arbre mort dont on aurait retiré toutes les feuilles, voilà.
Effectivement, alors comment on passe, je vous la pose cette question, d'autant de pages. Et puis finalement, on a l'impression quand on vous lit que ce n'est pas vraiment un journal, il y a vraiment un narrateur qui est votre double littéraire.
Oui, ce n'est pas un journal. Mm-hmm. C'est un vrai livre, je dirais. Alors, comment on passe de l'un à l'autre?
Alors, vous n'aimez pas le mot roman,
c'est le... Ah non, ce n'est pas un roman. De toute façon, ce n'est pas...
Récit,
oui, c'est un récit personnel ou un essai en même temps, puisqu'il y a de la réflexion, il y a des analyses. Mais sans rien, j'espère, de pesant, ce n'est pas... c'est au fil de... quasiment au fil de la plume, mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cet effort de cohérence, que ça forme vraiment un livre. Maintenant, qu'est-ce que vous me demandiez? Comment on passait de l'un à l'autre? Eh bien, on élague et on retire ce qui est trop anecdotique, sans signification profonde ou réelle, et puis on en garde ce qui faisait, à ma propre relecture de ce journal d'origine, ce qui faisait le squelette le plus intéressant qui me parle, quoi.
Alors, on sent que le Covid est passé par là. Nombre de personnalités ou d'amis dont vous parlez, on voit leur date de naissance et leur date de mort. Elles sont parties dans les années 2020-2021. Est-ce que c'est le Covid aussi qui vous a incité à cette introspection?
Non, en fait, non. Pas du tout.
Il
y avait à l'origine dans le journal des pages sur le Covid et sur le confinement lui-même, qui me rappelait, d'ailleurs j'étais pas le seul à faire cette analogie, qui me rappelait des choses que je n'ai pas connues parce que je suis né après la guerre, mais enfin qui me rappelait des moments de l'occupation, où il fallait montrer un Ausweis pour circuler, et on avait peur de faire une mauvaise rencontre, d'être arrêté, d'être fouillé, etc. Mais c'était un fantasme que j'avais, que je nourrissais et que je partageais, semble-t-il, avec d'autres gens. Maintenant, ce n'est pas le Covid qui a tué ces gens-là dont je parle. C'est simplement leur mort, leur vieillesse. Et c'est un livre... Alors, on parle de souvenirs, ce n'est pas exactement des souvenirs, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire, c'est des évocations de personnes qui sont décédées, en effet, qui nous ont quittés, qui étaient... parfois des amis très proches et parfois simplement des gens que j'avais croisés et qui m'ont marqué pour telle ou telle raison, des raisons très précises, et pour lesquelles je nourris une sorte d'amitié ou d'amour rétrospectif, ou même de regret ou même de remords.
Alors, plusieurs types de personnes se croisent, ceux que vous avez côtoyés dans votre vie personnelle, familiale, et puis ces grandes figures du monde littéraire parisien. Mais c'est fascinant, toutes ces personnes dont vous pouvez parler, vous les avez toutes réellement rencontrées?
Écoutez, je fais pas un portrait de célébrités extrêmes. Je parle de gens, oui, en effet, que j'ai croisés. Alors, il y a deux séquences, si vous voulez. Il y a une séquence prestigieuse, prestigieuse, je mets des guillemets, autour d'une collection et d'une revue qui s'appelait Le Chemin, qui était chez Gallimard, qui existait, comme il y avait plein de collections dites d'avant-garde dans les années 70-80, et il n'y en a plus, c'est fini. C'était une autre époque. Bon, c'est aussi l'aspect « c'était une autre époque » qui m'intéresse. Alors, ça ne veut pas dire que je considère que c'était mieux avant, comme certains le disent, hein. Pas du tout, c'était pas du tout mieux avant. Mais bon, il se trouve que j'ai envoyé mon premier livre, à quelqu'un qui s'appelait Georges Lambrix. D'ailleurs, il y a une biographie qui paraît ces jours-ci sur lui, sur Georges Lambrix et cette collection Le Chemin. Et voilà, il l'a donné à lire, j'ai appris plus tard, à Raymond Queneau, qui l'a pris en 10 jours. Donc voilà, un jeune écrivain envoie son livre, il est pris en 10 jours par Gallimard. Imaginez le choc que ça fait. Et alors, la femme de ce Georges Lambrix, Gilberte Lambrix, qui travaillait chez Gallimard à la Pléiade et qui traduisait, notamment qui a traduit Zorn, dont on reparle aujourd'hui, un grand, grand livre sur le cancer et la dépression. Alors, réunissait les auteurs de son mari le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus, à midi, pour le déjeuner, autour d'un plat de pâtes. Et là, j'ai rencontré des gens comme Henri Méchonic ou Michel Deguy.
Est-ce que vous vous rendez compte que pour nous, lecteurs, c'est passionnant, toutes ces anecdotes-là de l'intérieur?
Oui, non, je me rends pas compte.
Alors voilà, il y a ces deux lectures, hein, ce microcosme littéraire et puis cette Yiddishkeit, et ça aussi, ça nous passionne. Pourquoi cette envie de les faire revivre en quelque sorte ?
Eh bien, comme la direction du livre, que le livre prenait un peu à mon insu, mais que j'ai assumé évidemment, c'est de me tourner vers le passé et de faire une sorte de bilan, enfin d'évocation comme ça. Pas forcément dans la nostalgie, parce que la nostalgie est une illusion, puisqu'on ne regrette pas forcément. Est-ce qu'on voudrait revivre ce qu'on a vécu ? Je crois que personne n'aimerait revivre ce que les gens ont vécu. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux séquences. Donc, la séquence quand j'étais tout jeune auteur du chemin, et puis, 10 ans plus tard, l'expérience de la création d'une revue juive qui s'est appelée Trace, qui a duré quelques années et qui a disparu. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la disparition, au fond. C'est le fait que ça a été et ce n'est plus. C'est ce passage de l'être au néant, enfin de l'être à l'effacement. C'est un livre sur l'effacement.
Il y a des noms que vous redonnez à la vie, comme celui de Leonard Rochman, par exemple. Quelles sont les personnalités qui vous ont le plus marqué ? Est-ce qu'on peut les nommer à la fois dans les revues pour lesquelles vous avez participé ou dans la Yiddishkeit ?
Je ne nomme pas telle ou telle personne parce que ce sont des personnalités. Je nomme telle ou telle personne parce que ce sont des gens qui m'ont intéressé, qui m'ont apporté quelque chose. Par exemple, Berthe Burko n'est pas forcément une immense personnalité, même si elle a écrit des livres, d'ailleurs, un très beau livre qui s'appelait Un prénom républicain, où elle raconte sa famille bundiste, qui n'était pas du tout dans la même obédience que ma propre famille. Donc, je ne raconte pas les choses parce que ce sont des personnalités ou des gens célèbres. Je parle de Lionel Rochman parce que je l'ai rencontré et qu'il chantait des petites chansons toutes simples. Alors, il y avait deux choses chez Lionel Rochman. Il y avait celui qui jouait de la guitare et qui chantait Wenn der Rebbe singt, par exemple, quelque chose comme ça, mais de façon très, très simple. Hein. Et puis, il y avait le Rochman qui imitait avec un faux accent yiddish, habillé en tailleur. Alors, probablement ses propres souvenirs d'un tailleur, parce que tout le monde a eu un tailleur dans sa famille, un tailleur ou confectionneur, enfin voilà, quelqu'un qui travaillait dans ce qu'on appelle le schmates.
Alors, est-ce qu'on peut dire que, quelque part, vous seriez un petit peu comme le dernier des Mohicans ? Parce que on voit la manière dont vous avez côtoyé ce monde-là, ce monde disparu, les silences aussi, vous le dites, et puis finalement, vous en êtes le porte-voix.
Alors, est-ce qu'on n'est pas tous le dernier des Mohicans de quelque chose, et d'une lignée ? On est le dernier des Mohicans, on est le dernier à avoir connu un tel, on est le dernier à pouvoir nommer tel personnage, telle personne sur une photo. Et ça m'a toujours intéressé et bouleversé même, cet effacement du nom de quelqu'un sur une photo. Modiano a quelques pages là-dessus. Je mentionne Modiano parce que c'est un des écrivains qui me touche le plus pour cette raison-là, c'est-à-dire son rapport au passé, son rapport à l'inconnu, à l'oubli. C'est pour ça que Proust m'intéresse aussi au-delà de et en deçà de Modiano. L'oubli me paraît plus important que la mémoire. Donc ce qui reste, c'est les traces, pour reprendre le titre de cette revue dont je parlais.
Alors vous évoquez la psychanalyse Anne Listern, qui a vécu jusqu'en 2013. C'est une ancienne déportée d'Auschwitz. Elle a écrit le livre Savoir déporté. Et vous expliquez sa démarche. Alors je vous lis. Ce savoir-là n'était pas un savoir de qui c'est qu'il sait, mais le savoir d'un être qui traversa une épreuve intransmissible et qui a cette connaissance singulière d'un autre être, eût-il lu tous les livres et vu tous les films et entendu tous les témoignages, ne possédera jamais, il en va ainsi de mes amis, etc. Donc, est-ce que vous êtes là dans une problématique qui est d'une terrible acuité, une génération disparaît, celle des témoins qui ont vécu l'horreur? Comment la transmettre, cette mémoire de la Shoah, si plus personne ne peut la porter ? Et là, vous êtes vraiment dans l'actualité. Et puis finalement, Ça engendre une autre question qui peut peut-être résumer vos démarches, votre démarche. Je ne sais pas si c'était celle-ci. Et finalement, c'est de rectifier le réel avec la littérature. Je l'ai perçu un petit
c'est
peu comme ça.
C'est de rectifier le réel avec la littérature. C'est ça que vous avez
oui.
dit. Et c'est ça que j'ai entendu.
Oui.
Rectifier le réel. Oui, enfin, rectifier dans le sens soigner, améliorer, colmater, quelque chose
dans
comme
ce
ça.
Sens-là,
c'est
oui.
ça que vous
oui.
vouliez dire. Oui, probablement. Oui, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire, j'ai le rapport aux anciens déportés, qui sont de moins en moins nombreux, qui bientôt n'existeront plus. J'ai ce même rapport avec ceux qui ont quitté la Pologne, qui n'auront bientôt plus, sauf peut-être ceux qui ont été cachés en Pologne pendant la guerre et qui sont venus en Occident, enfin en France ou en Belgique ou aux États-Unis après la guerre. Le fait d'être né en Pologne, pour moi, représente une sorte de mythe, mais pas au sens mythe rose. C'est un mythe, c'est-à-dire quelque chose d'inatteignable, comme une sorte de prouesse incroyable.
Alors, justement, il y a cette tradition dans le monde d'Europe centrale et orientale, et notamment en Pologne, des mémoires bourreurs. Alors, vous en parlerez sans doute mieux que moi, vous le direz mieux que moi, ces livres de mémoire qui inscrivent des noms, qui rappellent des itinéraires. Et en refermant votre livre, eh bien, j'ai un peu pensé à ça. Vous redonnez vie à des personnes disparues en scellant leur nom dans l'encre d'un livre en papier. Alors, on comprend bien aussi en vous lisant votre rapport à la religion, au rite, au judaïsme, qui est quand même ambivalent. On sent qu'il n'y a pas vraiment de rejet. Il y a quand même une inscription dans cette tradition. Après, vous nous direz votre lien avec tout ça. Et finalement, on pense évidemment aussi à cette prière que l'on prononce lorsqu'une personne disparaît, le Kaddish, qui n'est pas une prière des morts, mais une sanctification du nom et du nom de Dieu. Est-ce que vous avez pensé à tout ça en écrivant ce livre ?
Non, mais en même temps, en vous écoutant, je ne suis étonné de rien parce que c'est en effet très proche quoi, de tout ce que vous avez dit. Sauf que c'est pas conscient, c'est pas volontaire, c'est pas délibéré. Il y a pas de démarche. Je suis très loin de la religion, mais je ne suis pas anti-religieux, comme vous le disiez. Il y a une inscription des noms, oui, voilà. Ça, j'ai toujours été obsédé par les noms. Dès mes tout premiers livres, il y avait des listes de noms, des noms inventés, qui me rappellent toujours le livre de Klarsfeld, le livre de la déportation des Juifs de France, qui sont, 500 pages de noms. Et dont je dis qu'il représente, au fond, 76 000 possibilités d'évocation à la Modiano, à savoir 76 000 Dora Bruder. Donc, tout cela, je ne sais pas si c'est proprement religieux, je ne crois pas. J'en sais strictement rien, j'en sais rien. Ça m'intéresse à peine de le savoir, mais c'est ma démarche, quoi.
Alors justement, vous parlez du mémorial de Serge Klarsfeld, et il nous a appris, Serge Klarsfeld, que 6 millions de Juifs ou 76 000 Juifs de France déportés, c'était pas un chiffre global, mais c'était 1 plus 1 plus 1,
oui.
Une somme d'un certain nombre de vies. Et là aussi, on n'est pas très loin de votre démarche. Alors nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom, en compagnie de Henri Raksimov, qui nous parle de l'arrière-saison des Lucioles, parue aux éditions L'Antilope. Il y a quelque chose aussi qui m'a un peu alerté dans votre livre, sur lequel j'y ai vu quelque chose de particulier, mais vous allez nous le dire. Vous parlez beaucoup de votre papa et très peu de votre mère, Anna Davidovitch, qui nous a quittés en 1996. Et c'est l'inverse de ce qui se passe en général chez les Juifs. En général, c'est la mère juive qui prédomine. Mmh. Est-ce que c'était volontaire tout ça ?
Oui, c'était volontaire. J'ai déjà parlé de ma mère dans certains de mes livres, mais je crois que le prochain sera consacré vraiment à ma mère. Mais ma mère est quelqu'un de plus, j'allais dire, de plus banal.
Que votre papa.
C'est une mère. Elle n'est qu'une mère. Mais ça, c'est l'enfant qui en parle de sa mère comme étant une mère. Mais c'est aussi une femme. mais l'enfant n'en sait rien. Donc j'ai essayé, je vais essayer, c'est mon projet, de parler de ma mère en tant qu'elle a été une femme qui s'appelait Anna Davidovitch. Bon. Alors pourquoi mon père ? Mon père était un... J'ai sans doute été oedipien quand j'étais enfant et adolescent, et puis à un moment je me suis dit... je suis passé du rejet à presque de l'admiration, même si mon père ne jouait pas les héros. Mais j'ai bien, j'ai dû admettre un jour qu'il l'a été, au fond. Qu'il l'a été sur fond de tragédie, puisque sa mère a été arrêtée et déportée lors de la rafle du Veldiv. Et j'ai toujours associé, peut-être lui-même l'associait-il, l'arrestation et la déportation de sa mère et sa propre sauvegarde, enfin, sa propre survie. Alors, il s'est engagé, en effet, dans l'IFTP-MOI, c'est-à-dire un groupe communiste, juif communiste, voilà, qui était parmi les premiers dans la résistance armée. Et mon père racontait, non pas son héroïsme, mais qu'il a eu peur, comme ça, pendant 2-3 ans, il était armé, il se baladait dans les rues de Lyon, il pouvait être arrêté à tout moment... par la police française, par la milice, par la Gestapo, par l'armée, par tout le monde, voilà. Et donc, il tremblait. Il a passé 2-3 ans, à part les actions héroïques, je mets des guillemets là encore, de son groupe de résistance, à trembler de peur.
Et vous nous expliquez ce qui nous aide à mieux comprendre le début et le contexte hein, de...
Alors, c'est pourquoi, oui. Après la guerre, il a été tout naturellement communiste, enfin, comme des milliers d'autres. Parce que je décris, à propos de mon père, je décris un petit milieu que tous les Juifs, d'ailleurs, ne connaissent pas du tout.
D'un certain quartier parisien.
Non seulement
parisien.
Les Juifs, mais au-delà, personne ne connaît ça. C'est un quartier, c'est la classe ouvrière, je mets les guillemets encore, juive. C'est des gens qui ne connaissaient pas d'autres formes de juifs, par exemple. Les gens, à cette époque-là, les groupes se haïssaient volontiers. Hein? C'est-à-dire que les bundistes et les communistes, qui étaient très proches, puisqu'ils étaient marxistes l'un et l'autre, les uns et les autres, se haïssaient. Alors, chacun d'eux haïssait les religieux, qui haïssaient les sionistes, etc., etc. Donc, il y avait de la haine. Aujourd'hui, tout ça est fini. Alors, c'est une autre époque, comme on dit.
Et vous avez eu la chance, vous en parlez dans votre livre, de connaître vos grands-parents, ce lien aussi avec cette Pologne
très important,
qui n'existe plus.
Oui, même s'ils ne m'ont strictement rien raconté, parce que c'était des gens tout simples, voire illettrés, mais ils lisaient quand même le journal. Mais par exemple, mon grand-père, qui était anti-russe et anti-communiste, lisait le journal d'Inaïa Presse, sans savoir que c'était un journal communiste. Enfin bref, c'est mon père qui l'avait incité, qui l'avait abonné sans doute. Oui, j'ai eu cette chance de connaître mes grands-parents maternels qui m'ont en partie élevé lorsque j'étais tout enfant. Oui.
Et donc cette connaissance de la Yiddishkeit, du Yiddish, est-ce que ça vient d'eux ou de vos parents ?
Non, ça vient d'eux, évidemment. Oui. Mes parents, mon père était militant communiste, donc il y avait cette dénégation du fait juif. Chez les juifs communistes.
Mmh.
Qui n'était pas le cas chez les bundistes, puisqu'eux, il y avait la Yiddishkeit, il y avait le Yiddish, il y avait la littérature Yiddish, etc. Alors que chez les juifs communistes, non, il y avait le Yiddish, bien sûr, mais le Yiddish était un moyen véhiculaire de propagande. Voilà, ce qu'il était d'ailleurs pour les soviétiques, hein, avec le comité antifasciste juif, etc. Enfin bon, c'est... faudrait d'autres émissions pour expliquer tout ça.
Est-ce que votre père est revenu du communisme ?
Ah oui, bien sûr, oui, quand même. Oui. Bon, bien sûr, il y a eu d'abord la mort de Staline, la déstalinisation, le 20e congrès, puis il y a eu la Hongrie en 1956. Et puis surtout, alors il a rendu sa carte depuis au milieu des années 50, mais il a continué de voter communiste. Et ses copains, juifs communistes, continuaient, eux, d'être au parti. Et non, il a rendu sa carte et ça a duré. Il a voté communiste jusqu'en juin 67, jusqu'à la guerre des six jours.
Et après,
là, il a définitivement... d'ailleurs, à ce moment-là, mon frère a fait son alia avec la Chomer Hatzair. comme par hasard, puisqu'il était marxiste, léniniste, je ne sais pas quoi. Bon. Enfin, j'ai l'air de me moquer de lui, mais c'était pas. Il est mort maintenant, mais c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et mon père est devenu sioniste, comme tout le monde. Enfin, j'espère.
Et alors, en vous écoutant, on oublie, j'en ai pas parlé jusque-là, mais de la dimension, la dérision et l'humour dans ce livre. Il y a beaucoup de second degré, troisième degré même.
Ben, j'espère d'abord de ne pas me prendre moi-même au sérieux et puis de ne pas prendre certains autres dits sérieux au sérieux.
Alors, c'est une question classique, hein, mais c'est peut-être un peu banal, mais en même temps, c'est important, surtout sur un livre aussi personnel, un essai aussi personnel. Selon vous, qui peut aimer la lecture de l'arrière-saison des Lucioles? À qui vous pensez qu'il peut être adressé?
Alors, Gilles Rosier, oui. Et Anne-Marie, pardon Anne-Marie, Anne-Sophie Dreyfus.
Enfin, on va vous entendre sur ça après.
Et à vous-même. Maintenant, à qui? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question, étant donné que je peins un petit milieu dans une optique assez restreinte de choses qui ne sont plus.
Quand on est écrivain, est-ce que c'est difficile de parler d'un livre qui a été écrit, qui a été publié?
Écoutez, celui-ci est le dernier en date et assez frais, assez récent, donc je peux en parler facilement. Mais il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. À qui c'est destiné? C'est d'abord destiné à moi-même. Lorsque j'ai confectionné ce livre, comme mon père confectionnait ses complets et ses canadiennes, moi, en tout cas, contrairement à lui, c'est ça d'ailleurs la différence entre l'artiste, guillemets, et l'artisan. L'artisan sait à qui il destine son tailleur ou sa chaise. L'écrivain, enfin, ne sait pas. D'abord, il essaye de se satisfaire lui-même par rapport à ses propres exigences esthétiques et intellectuelles. Maintenant, à qui c'est destiné? Voilà une genre de question auquel je ne peux évidemment pas répondre.
Est-ce que vous travaillez déjà un nouveau projet? Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Celui dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, à savoir un portrait de quelqu'un
mère.
Qui s'appelait Anna Davidovitch.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Vous me demandez d'inventer une phrase?
Oui, d'imaginer une phrase pour donner envie de lire votre livre.
Eh bien, je reprendrai la phrase que j'ai mise en exergue d'André Schwarzbart, qui résume, c'est pour ça que je l'ai mise d'ailleurs en exergue, qui résume parfaitement ce projet. Nos yeux reçoivent la lumière d'étoiles mortes. Voilà, c'est le dernier des justes. Je me demande d'ailleurs si c'est pas l'incipit, la première phrase. Hein. Nos yeux reçoivent la lumière d'étoiles mortes.
Eh bien voilà, c'est une jolie...
On n'est pas loin des lucioles et de ce qui brille dans la nuit.
Merci infiniment, Henri Raksimov, de nous avoir parlé de votre actualité. Je rappelle son titre, L'arrière-saison des Lucioles, qui est apparu aux éditions de l'Antilope. Gilles Rosier, d'être intervenu dans cette émission. Et évidemment, c'est un livre que l'on recommande vivement. Et bien, peut-être à très bientôt, hein, pour parler du prochain ouvrage. Et puis, bonsoir à toutes et à tous.
Merci, au revoir.